Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez sans trop le savoir. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Et une série de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2021 à Reims. Et voici l'épisode 3. Quel est le programme pour ce troisième numéro de « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» Alors, laissez-moi une minute. Ah, il sera question de l'association CréaDev. Vous connaissez sans doute CréaDev et vous vous dites que nous allons donc sans doute partir nous promener du côté du quartier Orgeval. Et non, car CréaDev réalise actuellement un projet dans le quartier Europe. Si, si. Notre deuxième rencontre, elle, aura lieu à Wilson et Maison-Blanche. Passerelle des Arts, un nom poétique pour un projet qui enjambe deux quartiers rémois. Et pour commencer cette émission, nous ouvrons les portes du studio de Radio Primitive à l'école de la Deuxième Chance. Leur projet ? Parcours, dispositif d'insertion professionnelle, d'action culturelle et inclusive. Plus sobrement, ce projet est aussi nommé Parcours.
Bonjour, je suis Audrey Méraud, je suis référente pédagogique pour l'école de la Deuxième Chance sur le site de Reims et de Chalon. Je m'occupe particulièrement donc, des projets pédagogiques et j'ai coordonné le projet Parcours avec les équipes de formateurs et les jeunes.
Bah, moi c'est Delphine Basse, j'ai 19 ans, je suis arrivée à l'école de la Deuxième Chance en mai. Mon projet professionnel ce serait devenir vendeuse dans le prêt-à-porter.
Alors moi c'est Hugo. J'ai 20 ans et je suis stagiaire à l'école de la Deuxième Chance et je suis arrivé le 1er février.
Merci. Alors si vous êtes tous trois avec nous aujourd'hui dans les studios de Radio Primitive en cette fin du mois de juillet, c'est pour nous parler donc du projet Parcours. Le projet Parcours, certains des auditeurs et auditrices de Radio Primitive l'ont peut-être déjà découvert à l'antenne puisque des émissions de radio ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Le projet Parcours, c'est un projet très vaste avec beaucoup de partenaires. Est-ce qu'il est possible déjà de nous résumer le projet en quelques phrases et puis bien sûr après on ira voir plus dans le détail les différents volets qui constituent cette action.
Alors le projet Parcours à la base en fait c'est vraiment une rencontre entre donc nous l'école de la Deuxième Chance, Quartier Libre, le bloc et la volonté ensemble de faire à la fois un projet qui mélange de l'action culturelle, de l'action professionnalisante. En fait, l'idée, c'était de donner un nouveau souffle aux jeunes avec un dispositif de différentes activités. On est tombé vraiment au bon moment parce que c'était le moment où, justement, le bloc Quartier Libre, Arnaud Basserie, travaillait sur le projet de magasin libre. Donc ça s'est fait, voilà, on a commencé à réfléchir en amont des mois et des mois avant. On s'est proposé des idées mutuelles et l'idée est née de que les jeunes de l'E2C en fait investissent magasin libre, soient les premiers à investir ce lieu et presque à le créer, j'ai envie de dire, parmi tous les artistes qui aujourd'hui comptent dans ce lieu et qu'on peut voir voilà, tout l'été jusqu'en septembre. Donc en fait, l'idée, c'était de faire 4 parcours. Donc un parcours qui irait jusqu'à l'inauguration du site, c'est-à-dire le parcours avec l'artiste Olivier Grostet. Donc l'idée de préparer une construction monumentale. Un parcours street art, donc avec l'artiste Christine Séjean. Donc de faire une fresque qui aurait vraiment une place centrale en fait sur le site, puisque cette fresque fait 120 mètres de long, si je me souviens bien. Exactement. Ensuite, il y avait un parcours son. Donc, l'idée, c'était avec les artistes du label Lune de monter vraiment une pièce sonore, un souvenir auditif du lieu en allant enregistrer des bruits de tôle, tous les souvenirs possibles dans une friche, en fait. Donc, ils sont vraiment allés enregistrer des bruits de gravats, des bruits de vent qui passait, voilà. Et ensuite, ils sont allés en studio, donc à Cosmodrome, qui est un studio qui est dans Quartier Libre. Et ils ont vraiment monté leur pièce sonore, une super pièce presque, vraiment, j'ai envie de dire techno, enfin voilà, en tout cas, vraiment de musique électronique. Et puis, pour terminer, le parcours, j'en oublie le dernier, reportage, puisqu'il y a Hugo qui est là. Il faut que j'identifie les personnes. Donc, le parcours reportage avec le photographe Vincent VDH. Vincent donc, a accompagné les jeunes vraiment autour du reportage, c'est-à-dire prendre des clichés, manipuler les appareils photos. Et puis, normalement, donc il y a un zine qui doit sortir au mois d'août, donc qui doit être imprimé avec tous les portraits, que ce soit des artistes, bien évidemment des clichés du lieu, avant, après, pendant. Et puis avec Vincent également, il y a eu des portraits XXL collés des jeunes de l'E2C autour donc du site des magasins généraux, sur les murs. Mais en fait, je suis en train de regarder Hugo parce que je me dis, Hugo et Delphine sont les meilleurs pour en parler.
Alors, avant de vous laisser la parole, si je me souviens bien, dans le cadre du parcours son, les jeunes, au-delà de magasins libres, sont aussi allés se promener chez Césarée, la cartonnerie, oui. RJR. Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres visites en extérieur dans le cadre des différents parcours?
Oui, en fait, oui, donc... C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un dispositif d'activité, parce que autour de ça, évidemment, il y avait des visites de structures, des visites d'entreprises. Alors le parcours, par exemple, autour de la construction monumentale d'Olivier Grostet. Donc Delphine, tu te souviens des visites peut-être?
Oui, on a été voir un architecte, Hugo, et on a été à l'usine Seyfarth de carton à Farmen.
Mmh. Ouais, le cabinet d'architecte Hugo Pache, effectivement... L'usine de carton qui a fourni tous les cartons pour la construction monumentale d'Olivier
Grostet. Oui, car on ne l'a pas dit, mais il s'agissait d'une construction en carton.
Tout à fait.
Qui a résisté au terrible premier orage rémois, ouais, juste avant l'inauguration.
Ça. C'est ça. Effectivement, donc le parcours reportage où vous avez visité...
L'Union. On l'a visité, l'Union.
Voilà, normalement, il y avait une visite d'imprimerie en dehors de Reims, qui était prévue à la base, mais voilà, contrainte sanitaire, on n'a pas pu. Mais effectivement, il y a eu la visite de l'imprimerie de l'Union aussi. On y allait assez tôt pour voir l'imprimerie. Donc, c'était plutôt intéressant. Et puis, le parcours son a eu beaucoup de visites, puisqu'effectivement, donc, il y a eu Radio Primitive, il y a eu RJR, la cartonnerie, Césarée... qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Non, je crois que c'était déjà pas mal. Ils ont également, le parcours son, ils ont un petit peu assisté la régie, donc juste avant l'inauguration. Et puis, ils ont fait eux-mêmes donc, des interviews de personnes qui gravitaient autour du projet, et puis des jeunes eux-mêmes et des équipes. Donc ça, c'était très intéressant. Au niveau visite d'entreprise, on a eu pour le street art... Non, le street art, ils n'ont pas eu de visite, mais eux, ils ont directement fait des ateliers dans les locaux de Mathieu Hébard, hein, donc l'entreprise de construction, qui est un partenaire également.
Qui est situé juste à côté d'un magasin libre.
Donc voilà, ils ont pu travailler un petit peu avec les salariés, en fait, en équipe. Donc ça, c'est pareil, peut-être que Delphine... Elle en parlera puisqu'elle en faisait partie. Ouais.
Alors, Hugo et Delphine, bon, vos camarades du parcours son ont eu déjà 2 heures d'antenne sur Radio Primitive et RJR. On n'arrivera pas à vous laisser autant d'antenne que. Néanmoins, je veux bien vos retours. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, Delphine et Hugo, pour nous parler un peu plus de l'intérieur, de ce que vous avez pu faire. Et surtout, là, puisque maintenant le projet est terminé, qu'est-ce qui vous reste, quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Moi, c'était le parcours Olivier Grostet. Ça a duré une semaine et demie, nous. On avait 2600 cartons à faire. On a dû les découper par forme, On a dû les scotcher et les assembler. Tout ça avec plein de bénévoles qui sont venus chez Mathieu et Bart. Le truc qui me retiendra plus pour les cartons, c'est l'esprit d'équipe qu'on a eu avec tous les bénévoles, tout le monde. Et qu'est-ce que ça a apporté ? On a pu rencontrer Monsieur Grosse Tête les deux derniers jours. Et ça a vraiment fait plaisir de voir du monde venir déjà nous aider le samedi à monter. Parce que normalement, la structure devait faire 19 mètres de haut. Mais avec les intempéries, on n'a pu faire que 15 mètres de haut.
Ce qui est déjà...
Oui, c'est déjà pas mal.
Costaud.
Oui.
Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ton but professionnel n'a aucun rapport ni non. avec les cartons, ni avec l'art contemporain. Néanmoins, tu as l'air d'avoir pris plaisir à participer à ce projet. Donc, je ne sais pas, ça t'a mis un coup de boost
Oui, ça peut aider parce qu'on a rencontré plein de professionnels. Déjà, on a rencontré plein de gens. Ça aide beaucoup. Bah, déjà, rien que pour la vente, le contact avec les clients, c'est un rapprochement. Et c'était très bien. Esprit d'équipe, tout ça.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe des Delphines, par exemple, est un groupe qui venait tout juste de débuter son parcours EDC. Et ça, c'était, on va dire, un test de notre part, parce que habituellement, les projets pédagogiques arrivent un petit peu plus tard dans le parcours.
Parce que combien de temps dure un parcours à l'EDC ?
Un parcours à l'EDC, en moyenne, dure 6 à 9 mois. C'est... Voilà. Alors, mais on ne va pas dire qu'au bout de 9 mois, les choses s'arrêtent net. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est en moyenne, on a besoin de 6 à 9 mois pour construire son projet et puis commencer un petit peu à démarcher des entreprises et puis à avoir de l'expérience. Donc voilà, c'est vraiment une moyenne. Et effectivement, le groupe de Delphine, pour eux, l'expérience parcours a été ce qui a remplacé finalement le premier stage en entreprise. Mais c'était une volonté de notre part, en fait. C'était vraiment une expérimentation. On voulait vraiment le tester, ça. Et en fait, on s'est rendu compte, et Delphine, elle vient de le dire, en fait, c'est que ça a fédéré très, très fort le groupe. Et c'est vrai que, du coup, ils ont travaillé très vite la confiance en eux, la communication. Et alors, je ne sais pas, c'est Delphine qui peut le dire, mais peut-être qu'il y a eu plus de confiance en soi après à aller vers l'entreprise.
Oui, c'était plus facile. Parce que déjà, on a rencontré plein de gens, plein d'entreprises, et ça a été plus facile pour nous d'aller vers eux après.
De la fierté, le soir de l'inauguration. En plus, une inauguration dans un cadre festif, ça fait quoi de voir les gens s'extasier devant la sculpture à laquelle vous avez participé?
Ça fait plaisir parce qu'une semaine et demie de travail, ça se voit, et quand on voit les gens y aller avec bon cœur, ça faisait plaisir à voir. Beaucoup de fierté.
Hugo, quelques mots sur ton parcours?
Alors, moi, c'était reportage, du coup. Alors, le but du reportage, c'était de prendre en photo les 40 participants qui ont fait le parcours. Moi, j'ai bien aimé, ça a essayé de faire confiance en moi.
Sur le déroulé de la semaine, ça se passait comment? Vous avez quelqu'un qui était tout le temps avec vous? Au contraire, on vous laissait les appareils et hop?
J'avais toujours un formateur avec moi. Et oui, il avait toujours Vincent qui était avec nous.
Quel souvenir tu en gardes donc un peu plus d'un mois plus tard? Presque deux même, d'ailleurs.
Un bon souvenir,
ouais.
Ouais. C'était bien.
L'envie de continuer un peu l'image, la photo, même comme ça, hein, pour se faire plaisir, sans envie professionnelle?
Pour l'instant, non.
Non?
Non. Ça m'a juste aidé d'essayer d'avoir un petit peu plus confiance en moi.
Est-ce que tous les deux, vous avez gardé contact avec, alors peut-être que vous les voyez toujours d'ailleurs, mais avec les gens que vous avez pu croiser sur parcours, que ce soit vos collègues ou les artistes ou les gens de Magasin Libre?
Moi, Magasin Libre, oui, on a toujours contact. Et Émilie et Francis, non, parce qu'ils étaient de Marseille et c'est compliqué.
Alors nous, on a quand même gardé contact du coup avec Vincent, VDH. Puisque là, du coup, on se partage les photos aussi. On va se faire une rétrospective de tous les clichés, là, dans pas longtemps. Et puis, il va y avoir le zine qui va sortir. Vincent, on l'a invité sur une autre manifestation il n'y a pas très très longtemps. Nous, au niveau de l'EDC, ça nous a vraiment ouvert plein de portes, en fait, parce qu'on a trouvé vraiment des gens de qualité pour travailler avec les jeunes. Vraiment, ça nous a donné un réseau très, très intéressant, en fait. Et je voulais juste revenir par rapport à Hugo, parce que donc Delphine était plutôt novice du coup sur le parcours ODC, alors que Hugo avait déjà... Toi Hugo, t'es arrivé
en février.
Oui, c'est vrai, en février. Mais c'était compliqué aussi.
Oui, c'est en pleine... il y a eu le confinement, bon, ouais, etc. Mais du coup, Hugo, l'idée... en fait, moi, j'ai rencontré quasiment tous les jeunes avant de leur proposer. Enfin, en fait, j'étais à l'origine de... J'étais missionnée pour les proposer. Ça fait partie de mes missions. Donc, je leur ai proposé le projet. Et pour Hugo, en fait, on avait vraiment réfléchi en amont avec l'équipe de formateurs à savoir quels jeunes on allait positionner sur ce projet et pour quelles raisons, en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été au hasard. En fait, tous les jeunes de l'E2C n'ont pas participé à Parcours. Ça, il faut le savoir. Et on a vraiment identifié des jeunes pour travailler des choses particulières. Notamment Hugo, effectivement, c'était l'image de soi, la confiance en soi. Parce que à travers un appareil photo, c'est tout bête, mais voilà, on photographie les autres et on arrive à faire ressortir de belles choses chez les autres. Et l'idée, c'était vraiment que Hugo s'épanouisse dans ce projet comme ça, quoi. Donc les choses n'étaient pas faites au hasard.
Là, déjà, l'usine va bientôt sortir, mais est-ce qu'il y a des suites prévues à ce projet parcours, un parcours 2 qui prendrait une autre forme ou des envies de continuer avec ces nouveaux partenaires ?
Ce qui est sûr, c'est que oui, on va continuer avec tous les partenaires. Parce que, alors du coup, on n'en a pas parlé, mais il y a eu quand même le bootcamp.
Avec Reims Éducation.
Oui, ouais, avec Toufik Sakher. Ça c'est pareil, ça Hugo et Delphine peuvent en témoigner s'ils veulent. Et puis il y a eu le Mitch aussi. Je sais pas si vous voulez peut-être en parler.
On a fait ça, c'était au début de parcours. C'était pour nous apprendre à avoir une cohésion de groupe, à se faire confiance. Et c'est pour ça qu'on a fait book camp avec Toufik. C'était au parc Léo.
Alors peut-être on peut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un book camp.
C'est une activité sportive qui dure toute une après-midi, où on a le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Et aussi, c'est le Mitch.
C'est du théâtre d'improvisation.
Du théâtre d'improvisation qu'on a fait toute une matinée le jeudi. C'était pour aussi la confiance en soi et l'esprit d'équipe. Ça a été au tout début de parcours.
Et ça, vous en gardez un souvenir. C'était difficile, d'ailleurs, parce que c'est une question, hein, quand on n'a pas l'habitude, le théâtre d'impro, ou même si on n'est pas trop dans le sport, en plus, le bootcamp, c'est pas une balle aux prisonniers, quoi. Donc, c'était difficile. Quels souvenirs vous en gardez ?
Je garde des bons souvenirs des deux. Le Mitch était très facile. Le bookcamp, c'était un petit peu plus difficile parce que c'est sportif. Surtout, il a plu toute l'après-midi.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai quand même envie de dire que ce groupe-là s'est tapé la pluie tout l'après-midi. Mais vraiment, la grosse pluie. Ils étaient trempés. Et en fait, voilà, ils continuaient à s'entraider, à se faire grimper en haut de l'araignée à l'aveugle. Parce que c'est vraiment ça, les activités du bootcamp. En fait, c'est guider quelqu'un qui va avoir les yeux bandés tout en hauteur, à grimper dans le vide. C'est vraiment ça. C'est le dépassement de soi. Voilà, Delphine, elle l'a dit, la cohésion d'équipe.
Et toi, Hugo, toi qui parlais de confiance en soi, le théâtre d'impro ?
C'était compliqué.
Oui, plus difficile.
C'était dur. Mais le plus dur, c'était quand même bookcamp.
C'est vrai.
C'est très dur. Et je me suis quand même dépassé, mais c'était trop dur. J'ai une fierté, c'est au moins que j'ai réussi à me dépasser alors que j'aurais pas pu le faire finalement.
Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette interview à des jeunes qui, par exemple, rejoindraient le dossier prochainement pour diverses raisons? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur ce que ça vous apporte, ce que des dispositifs comme Parcours ont pu vous apporter?
Le dossier, ça apporte plein de choses. Déjà, avoir un projet professionnel et la remise à niveau surtout. On travaille beaucoup. Et ça aide beaucoup, même pour les stages.
Et toi ?
Alors, le dossier, c'est bien. Ça t'aide vraiment. Les formateurs sont vraiment là si t'as besoin pour que ce soit n'importe quoi. Mais surtout aussi pour le projet professionnel. Et aussi pour faire des activités comme ça, c'est super bien.
Est-ce que ça permet aussi d'être un peu mieux dans ses baskets, au-delà du projet pro, quoi. Juste de voir d'autres gens. Puis là, on a eu des années un peu compliquées, donc...
Rien que là, après le Covid, ça fait plaisir de revoir des gens. Ça fait bizarre. Mais ouais, c'est très bien, c'est une très bonne équipe surtout.
Et je pense que c'est ça, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets professionnels. Oui, effectivement, l'E2C est identifié. Le but, c'est l'insertion professionnelle. Effectivement, c'est l'objectif. Mais au-delà de ça, il y a l'insertion sociale. Hugo, tu le dis un peu à demi-mot, mais c'est vrai que voilà, on oriente aussi vers des partenaires sociaux qui peuvent accompagner les jeunes aussi. C'est un tout en fait, parce que quand on arrive dans un parcours de C avec le formateur référent ou la formatrice référente, un jeune il est accompagné individuellement. On essaye de démêler un peu des problématiques qui sont vraiment des freins à l'emploi et à l'insertion sociale. Et puis voilà, une fois qu'on arrive à démêler un peu tout ça, il est temps de réaliser effectivement son projet professionnel. Mais avant, il y a tout un tas d'étapes. Il y a la socialisation aussi, il y a la rencontre vers les autres. La difficulté aussi, c'est que bien souvent, et ça vous l'avez connu du coup tous les deux, c'est qu'aussi bien souvent, les jeunes qui arrivent sur un parcours de C sont des jeunes qui n'ont pas été en collectif depuis un petit moment. Donc sortis du système scolaire aussi. Alors ça ne veut pas dire on t'a abandonné aussi le système scolaire. Hein. Il y a de l'abandon, mais il y a aussi, on a arrêté à un moment donné parce que la vie faisait qu'il y a eu un coup d'arrêt. Et il y a aussi toute cette étape de se retrouver en groupe, de rencontrer les autres, c'est pas si simple. Alors c'est pour ça que des projets comme Parcours en fait fédèrent beaucoup, et les jeunes, même au-delà de ça, certains jeunes en fait sortent de l'exclusion réellement, on est vraiment là-dedans. Donc voilà, et tout au bout effectivement il y a le projet professionnel qui se construit petit à petit, mais c'est plein d'étapes comme ça en fait.
Se passe-t-il dans mon quartier est une série d'émissions qui vous fait découvrir des projets rémois réalisés dans le cadre de Politique de la Ville. Le deuxième rendez-vous de cet épisode nous invite à emprunter une passerelle. Mais pas n'importe laquelle, une passerelle des arts. Que se passe-t-il au-delà de cette passerelle? Où nous emmène-t-elle réellement? Laissons la parole au pôle culturel des maisons de quartier rémoises.
Leur handicap. Ouais. Ça, c'est joli, ça. Pour les
trois d'années.
Voilà. Et quand on est bien. Voilà. Tout ça, c'est bien.
Voilà. Là, vous êtes en train de faire quoi exactement?
Alors là, en fait, on est en train de mettre en place le dernier atelier, enfin, le dernier accueil sur le projet Passerelle des Arts. En fait, tous les mercredis, on a fait un petit atelier qu'on appelle Porteur de Parole. Le principe, c'est de collecter la parole des gens. On tend une corde à linge entre deux arbres, entre un poteau et puis un autre arbre, tout ça. Et on pose une question aux habitants. Par exemple, la passerelle de tes rêves t'emmènerait à quel endroit? Ou qu'est-ce que tu aimerais trouver derrière la passerelle, etc. Et on invite les habitants à y répondre. C'est un atelier qui est très intéressant pour collecter la parole des habitants et voir un petit peu ce qu'ils ont envie de faire de leur quartier, quoi, ou du lieu sur lequel ils vivent, de leur ville, etc. Et du coup, en fait, au fil de l'après-midi, les habitants affichent en fait leur opinion, leur point de vue, leurs idées sur la corde à linge. Et puis, plus on avance dans l'après-midi, plus il y a de choses d'affichées. Et du coup, ça crée un peu du débat ou de l'échange, parce que les gens qui vont arriver en cours d'après-midi vont aller lire ce que les premiers ont mis et vont pouvoir rebondir sur ces idées-là. Et du coup, comme ça, on crée un peu un espace de débat, d'échange plutôt convivial et agréable, quoi. Je suis Céline, en fait, je suis animatrice socioculturelle pour le pôle culture de l'association des maisons de quartier de Reims. Et avec mes collègues du pôle culture, Clément et Loïc, on participe à un projet qui s'appelle Passerelle des Arts, où on a tout un tas de partenaires avec nous. Et puis, c'est les maisons de quartier, Maison Blanche et Wilson. Et dont Jérôme, par exemple, qui est l'animateur de Maison Blanche avec sa grosse voix qu'on va peut-être entendre par-ci, par-là pendant les interviews. Et puis, Marie de Wilson, qui va pas tarder, qui nous a beaucoup accompagnés. Puis on avait aussi le service départemental de prévention avec Vanessa qui était là sur la préparation du projet, l'animation et tout ça. On a aussi un partenaire qui était très présent, Nathalie Vernier, qui travaille à la politique de la ville, qui a vraiment soutenu notre projet. Et puis de nombreux bénévoles là, qui nous ont donné des gros coups de main pendant ces 4 mercredis là qu'on a fait un coup à Wilson, un coup à Maison Blanche. L'idée, c'était de réinvestir en fait les espaces publics, les places piétonnes qui sont peu utilisées par les habitants en fait, comme des lieux de rassemblement. Et donc là, vraiment, c'était de les refaire revivre en fait pour valoriser ces endroits qu'on trouve un peu dans tous les quartiers de la ville, quoi, finalement. Là, pour la première année, on est venu sur Maison Blanche et Wilson parce qu'il y a une passerelle qui franchit la voie ferrée et qui rapproche les quartiers de façon très très rapide finalement, parce qu'à pied, d'une maison de quartier à l'autre, on met 10 minutes à peine. Et du coup, voilà, on voulait s'appuyer sur cette passerelle. La passerelle, c'est aussi un mot qui est plein de connotations plutôt positives. On a besoin un peu de cet espoir de se retrouver avec d'autres, de faire passerelle avec son quartier d'à côté, avec son voisin, avec le pays d'à côté, avec le pays de l'autre côté de la mer, tout ça. Enfin voilà, et la passerelle, c'est un mot vraiment qui connote énormément de choses.
Alors comment se sont organisés chaque après-midi ?
Alors du coup, on donnait rendez-vous au pied de la passerelle. Et puis il y avait à 15h30 un atelier porteur de parole. C'est ce qu'on est en train d'installer. Là, on fait un peu la restitution des 3 premiers mercredis. Et puis, à 16h30, on laissait le temps aux gens de goûter un petit peu. Et puis, à 17h, le spectacle avait lieu. Donc, les gens qui étaient aux porteurs de parole, ils nous accompagnaient sur le lieu du spectacle, où là, on proposait un temps. Les spectacles ont duré entre 40 minutes et 1 heure. Et des spectacles toujours très, très dynamiques. Beaucoup de clowns, de théâtre burlesque, tout ça, c'était vraiment chouette. Et là, aujourd'hui, sur le dernier mercredi, on est sur du jonglage avec une compagnie locale, Les Objets Volants. Vraiment, l'idée, c'est de la convivialité, que les gens puissent ressortir de chez eux un peu, profiter des espaces publics, rediscuter avec d'autres, des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà, reprendre le goût d'échanger, de discuter avec d'autres, quoi.
Et là, donc, on arrive au quatrième mercredi. Qu'est-ce qui est ressorti globalement de ces ateliers, de ces différents ateliers ?
Alors, là, je lis juste l'amour, la joie, la paix. Hein. Voilà, c'est joli. C'est des écritures d'enfants en plus, c'est plutôt encourageant. On a fait tout un travail autour du regard de l'autre aussi. Donc, il y a la question d'accepter les différences. Il y a aussi, dans les idées concrètes, les enfants ont beaucoup parlé d'animaux, l'envie d'avoir des animaux dans leur quartier. Donc, ça peut donner des pistes. À la maison de quartier Maison Blanche, ils ont déjà 6 ou 7 lapins, ils ont des abeilles, tout ça. Enfin, bon, donc, il se passe déjà des choses. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu des enfants, l'idée des animaux. Et puis voilà.
Quel bilan vous tirez de ces 4 mercredis
Le retour là, il est plutôt positif parce qu'on a eu un peu de monde à chaque fois. Alors en plus, on était en mode Covid, les jauges étaient restreintes. Finalement, on a un peu triché parfois, on était un peu plus nombreux que ce qu'on avait prévu. Mais du coup, c'est plutôt positif parce que sur chaque mercredi, il y a des familles de Maisons Blanches qui sont rendues à Wilson, des familles Wilson qui sont rendues à Maisons Blanches. À chaque fois, il y avait au moins entre 2 et 6 familles du quartier d'à côté qui venaient sur le lieu du spectacle. Et du coup, c'est plutôt chouette, c'est plutôt un bon point. Et puis, on a vu que c'est de la rue, ce qui est chouette de programmer en rue, c'est que tous les gamins en fait, qui sont livrés à eux-mêmes dans le quartier, ils peuvent assister au spectacle. Quand on programme dans la maison de quartier, on ne peut pas se permettre d'accueillir un gamin sans un adulte, quoi. Que là, du coup, le fait d'être en rue, on avait vraiment tous les gamins du quartier qui venaient assister au spectacle, et ça, c'était vraiment chouette de voir ça.
Comment ont été choisies les compagnies qui sont intervenues là sur la salle des arts ?
Alors, en fait, là, on a choisi des compagnies du Grand Est, parce qu'on travaille très souvent avec les compagnies du Grand Est, à la fois pour soutenir la création régionale, et puis parce que, du coup, il y a moins de frais de défraiement aussi. Mais on aime bien aussi soutenir ces compagnies. Et puis là, pour le coup, les objets volants, on connaît bien. Ils viennent répéter parfois chez nous, donc on aime bien aussi leur proposer des dates. C'est toujours sympa de bosser avec des gens qu'on connaît. Et puis les trois autres compagnies, les trois premières compagnies, pour le coup, moi, je ne les connaissais pas du tout. On les a choisies à l'occasion d'une rencontre qu'on a fait à Écuré, au Couac, qui est un lieu qui fait de la résidence de programmation de rue. Et du coup, on a rencontré 8 compagnies à cet endroit-là, dont 2 qui nous avaient semblé vraiment chouettes. Leur projet avait l'air vraiment sympa. Et le choix esthétique était lié à l'accessibilité du spectacle. Voilà, pour tout le monde, quoi. On est vraiment parti sur des spectacles très, très accessibles. Sans avoir aucun code du spectacle, on pouvait vraiment assister au spectacle sans souci. Des spectacles très interactifs, donc des compagnies qui ont l'habitude d'être confrontées à des gens qui n'ont pas l'habitude, eux, d'aller au spectacle. Donc, qui jouent beaucoup avec le public. Donc on avait aussi confiance en eux sur cet aspect-là. Voilà.
Celui qu'on dit plus, tu vois, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit, celui-là ?
Accepter les autres avec leur différence, accepter les autres avec leur apparence.
Ouais, c'est très bien. Ouais. Là, c'est vraiment ce que tous ils ont... Ils ont ça dans le cœur, hein, vraiment. Il faut accepter les autres. Voilà. Bon, mais voilà, je m'appelle Nadia Guillaume. Je suis bénévole à la maison de quartier Maison Blanche. Et c'est un projet qui était très plaisant. Ça m'a plu tout de suite, donc je me suis un peu investie, disons. Hein. Bon, parce que je n'étais pas la seule, moi je suis bénévole, bon, je ne suis pas. Voilà. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment. Très heureux ce projet, il était vraiment magnifique, surtout avec cette passerelle. Il y a des enfants qui n'avaient même jamais monté sur la passerelle. Ils étaient tout étonnés, hein. Pour eux c'était une grande découverte.
Qui n'étaient jamais passés d'un quartier à l'autre par la passerelle.
Non, jamais passé sur la passerelle. Donc après, et puis après, bon, il y a eu des jours. Après, on a fait des affiches. Donc à la fin de cette activité-là, il y avait un spectacle. Hein. C'était vraiment beau, hein. C'était vraiment, je dirais, surtout pour nous dans les quartiers comme ça. On n'a pas l'habitude d'avoir des spectacles comme ça. Tout le monde était ravi, tout le monde a aimé, et ça a été, ça a été l'apothéose, disons, le spectacle.
Est-ce que dans l'atelier Porteur de Parole, il y a des mots qui vous ont étonné ou qui vous ont charmé ?
Je suis en train de dépouiller justement toutes les affiches, et c'est vrai qu'on est assez étonné, et je vois que le mot revient beaucoup sur l'amitié, sur la confiance, sur la reconnaissance, sur la différence. Vous savez, la différence, en disant qu'il ne faut pas faire toute la différence. Et bon, ça, c'est pour ceux qui ont les pieds sur terre. Les autres sont des rêveurs. Alors pour eux, ben, la passerelle, c'est magique. Ils passent sur la passerelle et puis ils disent, bon, mais c'est un petit coup de baguette magique. Et puis ça y est, ils rêvent qu'il y a des fleurs, qu'il y a un zoo, qu'il y a des animaux. Moi, j'ai trouvé ça mais vraiment bluffant, c'est vraiment beau. Hein. Moi, j'estime que vraiment, ça sort de leur cœur. Hein. Ah, vraiment, ça sort de leur cœur. Hein. Voilà.
Donc je suis Nathalie Varnier, je suis chef de projet à la direction de la politique de la ville et donc on intervient sur ce territoire au titre du Grand Reims.
En ce qui concerne ce projet Passerelle des Arts, qu'est-ce qui vous a donné envie de le soutenir ?
Alors, au départ, l'idée du projet est née du fait que Wilson et Maison-Blanche font partie du même quartier prioritaire de la ville qui regroupe Châtillon, Wilson et Maison-Blanche. Et Wilson et Maison-Blanche sont reliés par une passerelle qui passe au-dessus de la voie SNCF. Donc l'idée et l'objectif premier, la genèse du projet, c'était de créer du lien entre les deux quartiers, de développer les liens entre les deux quartiers, sachant qu'il y a une centaine d'enfants qui sont domiciliés sur la ZAC de la Bonne Femme, donc côté Wilson, qui sont scolarisés à l'école Avranches, donc sur, côté Maison-Blanche. Et que tous les collégiens de cette partie du quartier de Wilson sont scolarisés au collège François Le Gros, donc transitent par Maison Blanche pour aller à François Le Gros qui est de l'autre côté de l'avenue d'Épernay. Donc l'idée était vraiment de créer, de développer ces liens entre les deux quartiers, sachant du coup qu'avec les écoliers, les collégiens, il y a de nombreux jeunes qui passent par cette passerelle dans le sens Wilson-Maison Blanche et pour des besoins de scolarisation. Mais qu'il y a finalement peu d'habitants de Maison-Blanche qui transitent par la passerelle pour aller aussi bien à la poste ou au marché ou dans les commerces de Wilson. Ils passent par Franché d'Esperey pour un grand détour alors qu'il y a cette passerelle qui est directe. Donc c'était de communiquer aussi autour de cette passerelle pour fluidifier les mobilités entre les deux quartiers.
Objectif accompli ?
Alors, c'est un projet de longue haleine. Hein. On est déjà bien content. On a quand même eu beaucoup de monde hein, sur ces spectacles. On a eu 4 mercredis, donc on a eu quand même beaucoup de monde. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler à plus long cours pour en créer de nouvelles habitudes, en fait. Hein. C'est compliqué de faire changer des habitudes et d'inviter les gens vers d'autres, de faire évoluer hein, les réflexes ancrés depuis longtemps. Donc tout ça, je pense qu'on le travaillera sur le long terme et l'année prochaine, peut-être on continuera, j'espère.
Oui, c'est un projet qui pourrait être amené éventuellement à se renouveler.
Je l'espère et je pense qu'il va falloir qu'on fasse qu'on débriefe, qu'on fasse des bilans. Mais je pense qu'on s'oriente vers un projet qui pourrait être reconduit et redéposé au titre du contrat DIL par l'association des maisons de quartier.
Vous écoutez Radio Primitive et l'émission Que se passe-t-il dans mon quartier ? Épisode 3. N'est-il pas opportun de découvrir un dernier invité avant de nous quitter ? Khalid Ramali est très actif dans le quartier Orgeval avec son association CréaDev. Pourtant, cette fois, il est à nos côtés pour nous parler d'une action qui se déroule au quartier Europe. La mémoire des quartiers rémois, voilà un sujet d'importance et le nouveau programme de renouvellement urbain est une bonne occasion de collecter ces petits bouts d'histoire collective.
Je suis Khalid Ramali, je suis animateur pour l'association CréaDev. Je mène des actions sur le quartier Orgeval depuis 2010, donc des actions inscrites dans le cadre de la rénovation urbaine d'Orgeval. Alors c'était à l'époque l'en rue 1. Depuis quelques années, là, on est passé au NPRU, donc nouveau programme de rénovation urbaine, et CréaDev a mené des actions, de nombreuses actions depuis une dizaine d'années. Depuis 2 ans, j'interviens sur le quartier Europe, sur la mémoire, Alors on n'a pas fait que de la mémoire, hein. On a créé un journal de quartier à Orgeval, un site, des expositions photos, voilà, il y a eu plein d'actions.
Alors ce projet justement qui se déroule à Europe actuellement et depuis le début de 2021, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Hein. Pour les auditeurs et auditrices, certains connaissent peut-être déjà CréaDev par le biais des actions qui sont menées à Orgeval. Mais justement, pourquoi CréaDev qui fait tellement partie du paysage, qui est tellement ancré dans l'histoire d'Orgeval, a eu l'envie d'aller mener un projet sur la mémoire à Europe?
Si vous voulez, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la mémoire du quartier, ben, je savais à quel moment j'avais commencé, c'était en 2010, mais en fait, on ne sait pas quand on débute une action sur la mémoire, à quel moment ça peut se terminer. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années, en fait, que j'ai travaillé sur la mémoire d'Orgeval. À un moment donné, il y avait aussi, si vous voulez, le quartier Europe, et aussi était inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, il y avait possibilité aussi de pouvoir travailler sur ce quartier. Et comme CréaDev, on a acquis au fil des années une certaine expertise, mais peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas une certaine volonté de travailler sur la mémoire des quartiers. Je pensais que c'était pertinent et judicieux d'aller aussi sur ce quartier Europe et pouvoir aussi travailler sur la mémoire sans être d'un quartier, sans être habitant de ce quartier. Parce que là, moi, je suis habitant de Orgeval depuis 40 ans. Donc je connaissais le quartier, je connaissais très très bien. Et je savais les différentes évolutions du quartier. Je connaissais le quartier. Sur Europe, j'arrivais, je connaissais absolument pas le quartier parce que je le fréquentais pas. Et là, c'était vraiment pour moi un défi de voir comment j'allais réaliser justement ce travail de mémoire. Là, vraiment, je partais, je connais absolument pas ce quartier-là, donc j'avais la volonté aussi de travailler sur la mémoire de ce quartier. Donc on a commencé en 2020 avec la maison de quartier Cerné Europe. Donc c'est la maison de quartier qui a déposé le dossier sur la mémoire de quartier. Et donc moi j'interviens avec Jean Bigot qui est artiste rémois. Voilà. Et moi je suis animateur associatif.
Alors justement, on vient de parler d'un partenaire sur lequel on peut s'appuyer, la maison de quartier Europe. Parce qu'arriver dans un quartier et aller demander aux gens de témoigner si on n'a pas une accroche... C'est compliqué. Est-ce qu'il y a eu d'autres façons de mettre en œuvre tout ça? Comment on donne envie aux gens de parler, de se raconter, d'amener des fois des documents personnels quand c'est très différent quand on n'est justement pas habitant, quoi?
Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai commencé avec Jean Bigot. Hein, on était tous les deux à travailler sur la mémoire de ce quartier. On a commencé déjà par vraiment arpenter le quartier. On y allait régulièrement. On a vraiment pris. On avait besoin, de marcher, de connaître ce quartier d'un point de vue déjà espace. Voilà. Ça, c'était la première chose à faire. C'était avoir vraiment accédé à cet espace. Prendre un petit peu la température de ce quartier. Après ça, on a commencé à interviewer des gens, en fait. On avait des interviews sonores. Et donc, on a commencé à aller vers les gens, en fait. Alors, ça pouvait être sur la place Jean Moulin, ou ça pouvait être aussi, parce qu'on avait réussi à avoir une liste de la part de la maison de quartier, de personnes qui travaillaient déjà sur le quartier, qui étaient bénévoles au sein de la maison de quartier. Donc on avait pu accéder finalement à des personnes qui nous ont donné leurs témoignages et après des documents, etc., etc. J'ai créé aussi une page Facebook qui permettait aussi aux personnes, aux habitants du quartier Europe, de pouvoir témoigner et de nous envoyer des documents. Donc ça a créé une synergie, au fait, entre la maison de quartier, nous, intervenants, et puis les habitants. Et donc c'est une page Facebook sur le quartier Europe qui tourne très très bien et elle est régulièrement alimentée par mes soins. On a rencontré des bénévoles qui sont investis aussi dans ce projet, comme Madame Marsa Valérie qui nous donne un coup de main. Madame Anka aussi nous a donné un coup de main important. Bon, on a retrouvé vraiment des personnes ressources sur ce quartier-là. Et c'est ainsi qu'on a pu entamer ce travail sur la mémoire.
On a parlé plusieurs fois de Jean Bigot, qui est donc dans ce projet à vos côtés, qui est artiste, qui a été, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas un temps domicilié à La Fileuse, à Orgeval justement.
Oui.
Quel est son rôle? Quel est le rôle d'un artiste dans un projet en lien avec la mémoire?
Monsieur Jean Bigot n'est plus domicilié à La Fileuse, hein, mais il est passé effectivement à La Fileuse ici à Reims. Donc son rôle, au fait, c'était moi quand j'avais commencé à étudier et à préparer le projet. J'avais envie qu'il y ait un regard, on va dire, artistique sur ce travail de mémoire. Et voilà. Et donc le choix s'est porté sur Jean Bigot, que je connaissais moi hein, personnellement hein, depuis quelques années. J'avais connu son travail, je connaissais. Hein, et je sais qu'il avait travaillé sur des armoires mémorielles, qui avait ce côté, qui connaissait un petit peu le sujet du travail sur la mémoire. Parce que moi, quand je l'avais connu il y a quelques années maintenant, il était déjà dans ce travail de mémoire. En fait, il y a bien une vingtaine, trentaine
oui,
d'années.
Oui,
au fait.
La majorité de ses œuvres.
Ouais, voilà, on est.
S'alimente
on est,
avec
s'alimente
l'histoire.
Avec l'histoire, avec et donc là, on a pu travailler ensemble sur des témoignages. Et lui, bon, il a une particularité, c'est qu'il est en train de préparer des armoires qui représentent un peu les années 60, voilà, avec des objets, des photos, tout ça, et qui vont être visibles au niveau de la maison de quartier dans le cadre d'une exposition photo, mais aussi à La Ruche, qui est un endroit de la maison de quartier Europe, où il y a des bénévoles qui viennent préparer, qui ont des projets, de différents projets, au fait, à La Ruche. Voilà.
Là, on est au début du mois de juillet 2021. Où en est-on dans la collecte de ces différentes informations historiques de l'histoire d'Europe?
Ben, on a collecté des documents, effectivement, hein, des documents on a eu des cartes postales, on a eu des témoignages sonores, des témoignages écrits, on a eu de la documentation, mais j'ai pas trouvé autant de documentation que le quartier Orgeval, parce que Europe, finalement, c'était un quartier où tout se passait plutôt bien pendant des années. Donc il n'y a pas eu tant que cela de rénovation. Donc il y a beaucoup moins de documents à avoir. Mais là, dernièrement, on a eu un contact avec Carnegie. Et là, on a retrouvé encore des documents. J'ai rencontré aussi M. Michel Thibault, qui est mémorialiste à Reims, qui m'a aussi donné des documents. Alors on trouve des documents, des coupures presse, etc. Mais ça ne sera pas, c'est pas autant développé que le quartier Orgeval, qui lui a connu une histoire plus abondante, on va dire. Donc il y avait plus matière à récupérer des documents. Voilà.
Si on désire voir le rendu, le grand public, est-ce qu'il aura accès à toutes ces archives qui ont été...
Donc les archives au niveau du quartier Europe vont être visibles au niveau de la maison de quartier Europe, Cernay Europe, dans le cadre d'une exposition photo. Parce que voilà, mon objectif, quand je suis parti aussi sur Europe, c'est aussi de présenter la mémoire. En fait, la mémoire, la collecte, c'est quelque chose qui est important. Mais ce qui est important, c'est de diffuser cette mémoire-là. Donc cette mémoire-là va être diffusée, au fait, au niveau du quartier via une exposition photo. Je pense qu'elle va se faire au mois de septembre 2021. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, la Covid, on n'a pas pu la présenter au mois on aurait dû la présenter au mois de juin, voire juillet, mais on ne peut pas. Donc ça sera certainement au mois de septembre. Donc il y aura une partie photo, les photos qu'on a récupérées, collectées. Il y aura une partie armoire mémorielle avec M. Bigot qui travaille sur l'aspect un petit peu artistique, la déco, les années 60, 70. Il y aura effectivement de la documentation qui va être visible à la maison de quartier. Donc moi, j'attends en fait les dates de début, dates de fin de cette exposition photo. Et puis, les gens vont être effectivement informés de cette exposition photo, des gens de Quartier Europe, mais d'ailleurs aussi, s'ils sont intéressés, bien entendu.
Quels sont les premiers retours que vous avez eus des habitants d'Europe quand vous avez commencé à collecter un peu toutes ces informations? Est-ce qu'ils étaient curieux de la démarche? Est-ce qu'ils étaient contents de pouvoir raconter un peu des moments de vie?
Quand on a rencontré...
Ou inquiet, hein, c'est...
Quand on rencontre, effectivement, alors ça revient tout le temps, en fait. Quand on interviewe des gens, quand on parle du passé, de la mémoire, les gens, ils disent « c'était mieux avant ». Donc ça, vous ne pouvez pas y échapper, c'est toujours « c'était mieux avant ». Et donc, effectivement, il y a un mélange, si vous voulez, parce qu'il y a de la nostalgie, voilà... Et puis souvent, ils nous disent, en ce moment, c'est moins bien. Il y a toujours cette idée de le passé, c'était mieux. Et le présent, avant, c'était mieux, effectivement. Et donc, on essaye justement de partir de ce mieux-là pour préparer un tremplin pour un futur qui pourrait être, qui doit être meilleur. Et donc, expliquer aux gens, la rénovation urbaine, elle est là. Ça va apporter des améliorations au niveau des bâtiments, au niveau de la vie de tous les jours. Mais c'est jamais facile, hein, parce qu'il faut pas être, faut pas se leurrer. Hein. Les gens, ils vous disent, c'est pas terrible. Là, c'était toujours mieux avant. Mais pour les gens, j'ai l'impression que ça sera toujours mieux avant.
C'est toujours mieux quand on est jeune, surtout.
Je sais pas, mais j'ai toujours entendu ça. Il y avait de l'inquiétude aussi hein, chez certaines personnes quartier Europe. Il y a de l'inquiétude par rapport au développement à la rénovation. C'est pas l'inquiétude de la rénovation parce que les gens attendent. Hein, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent à quel moment ça commence. Ils savaient pas, ils attendaient. Qu'est-ce qu'on va refaire, rénover, démolir? Mais sinon, les gens étaient inquiets parce qu'ils voulaient avoir et garder un quartier paisible, parce que ça a toujours longtemps été paisible, jusqu'il y a une vingtaine d'années, le quartier européen. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent retrouver, les gens. C'est ça, ce quartier paisible qu'ils avaient connu autrefois.
Alors avant de se quitter, est-ce que vous avez, une anecdote qu'on vous aurait racontée sur Europe, hein, quelque chose d'un peu qu'on n'imagine pas, là, en 2021?
Il y a plein de choses. Ce quartier-là, c'est né dans les années 60. Quand il a été inauguré en 70, par exemple, il y a eu ce qu'on appelait une exposition de sculpture, par exemple. Alors, sculpture dans la cité. Donc, ça a été pendant de juin à septembre. Il y a eu cette exposition. Donc, beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Après, il y a aussi, si vous voulez, une anecdote, c'était le bassin d'eau, là, le parc Jean Moulin et le bassin d'eau Jean Moulin.
Ça revient souvent, ça. On se demande presque si c'est une légende urbaine quand on est né après.
Non, ça existait bien. Il y avait bien de l'eau dedans. Donc on pouvait y placer des bateaux, si vous voulez, avec des espèces de petites voiles télécommandées. Hein. Donc les gamins jouaient bien. Les familles se retrouvaient souvent là-bas. Une anecdote très importante, c'est que Jean Tétinger, qui était maire à l'époque, a autorisé les gens à se baigner parce qu'il y a eu une année où c'était la canicule. Et je ne sais plus si 71 ou 74. Donc ça, c'est un témoignage d'une habitante parce qu'il y avait un gardien donc qui surveillait effectivement le bassin, tout ça, le bassin d'eau. Et effectivement, un été où il y avait un été caniculaire, donc le maire avait autorisé les gens à se baigner dans ce bassin d'eau. Alors, je crois que c'est 71 ou 74, je ne sais plus. Je dirais 71 quand même. Voilà. Et donc ça, c'est une anecdote. Mais maintenant, le bassin d'eau, il n'y a plus d'eau dedans, hein, bien sûr. Ça va être refait, au fait, requalifié, rénové, ce bassin d'eau et le parc dans son ensemble. Et donc, voilà. C'est l'anecdote que j'ai.
Quartier, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à 12h, pour l'épisode 4, toujours sur Radio Primitive.
Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio Primitive, rubrique émission, puis Que se passe-t-il dans mon quartier ? Cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du contrat de ville de la communauté urbaine du Grand Reims.